Donc, notre premier intervenant, c'est Juliana Fausto. C'est la personne qui est venue du Brésil spécialement pour sa journée. Et Juliana, elle est philosophe. Elle travaille à l'Université fédérale du Paraná, c'est au sud du Brésil. Elle vient d'écrire un livre très intéressant qui s'appelle « La cosmopolitique des animaux », qui est bien nourri par Donna Haraway, Vincent Desprez, Stenger et Brian Massumi. Je pense qu'ils sont les quatre plus... Yval Plamoud aussi. Et donc, je pense qu'on peut aussi parler sur ce film-là et aussi sur le travail de Juliana, parce qu'il y a plein de choses à discuter. Voilà, Juliana, on est très contents de t'avoir ici. Et bon, si tu peux parler un peu de ta cosmopolitique des animaux et aussi... Et aussi sur un étude de cas qui est très intéressant, qui c'est sur les chiens des Curitiba. Et un truc que je remarque surtout dans le dernier travail de Juliana, dans son livre, c'est qu'il est parti de son expérience de vivre ensemble avec trois chats et à la maison, donc avec qui elle a construit répertoire nouveau et un répertoire politique nouveau et avec qui en fait elle a écrit un travail, donc sont le très vrai compagnon à elle. Et voilà, je te donne la parole.
Merci pour l'invitation, merci Daniel, merci Cécilia, merci Nathalie. Je ne parle pas français, mais je vais essayer de lire mon texte en français. j'ai fait une sorte de traduction et Cécilia m'a assuré que ce n'est pas très inintelligible. J'ai pas de temps de parler de tout, ce que considère la cosmopolitique des animaux. Alors, je vais parler d'un seul cas, que je pense est un bon exemple de ça. Je commence. Mon texte s'appelle Citoyenneté canine, le cas des chiens de communauté à Paraná. Et il y a un petit épigraphe. Nous sommes de façon constitutive des espèces compagnes. Nous nous fabriquons l'un l'autre dans notre char, significativement autre, l'une à l'autre, dans nos différences spécifiques. Nous signalons dans notre char une méchante infection du développement appelée amour. Cet amour est à la fois une aberration historique et un héritage de nature culture. C'est de Donna Haraway, dans un livre qui s'appelle One Species Meet. La première partie du texte s'appelle Flairir. Je suis entrée au doctorat en philosophie de la PUC-Rio en 2013, dans le domaine de la recherche, philosophie et la question environnementale, sous la direction de la professeure Deborah Danovski. Mon avant-projet, qui traitait déjà d'une relation possible entre les animaux et la politique, est devenu, au cours de mes études, un travail sur le rôle politique souvent invisible des animaux et sur les moyens de lui cultiver et lui rendre visible. Ce chemin a été privilégié par la rencontre avec la théorie du perspectivisme amérindien d'Eduardo Viveiros de Castro e Tani Stosi Lima et, d'autre part, avec des philosophes tels que Donna Haraway et Vincent Desprez, qui travaillent directement avec des animaux ou avec des humains qui vivent à leur tour avec des animaux, des chercheurs de laboratoire expérimentaux jusqu'aux éthologues de terrain et éleveurs. C'est-à-dire le travail ouvrait des chemins vers les animaux eux-mêmes, de sorte que mon discours à leur sujet ne se limitait pas aux réflexions du cabinet, mais se laissait contaminer par leur présence concrète. C'est par cet empressement que je suis arrivée au début de 2015 au LABEIA, Laboratoire de Bien-être Animal de l'UFPR. L'UFPR, c'est l'Université fédérale du Paraná. dirigé par la professeure Carla Fortes et Maiolino Molento, qui m'a reçu avec générosité et m'a permis d'accompagner non seulement les réunions et les discussions qui ont lieu là, mais aussi les actions qui en découlent. Déjà lors de notre première rencontre, Carla Molento, après avoir lu mon projet de doctorat, m'a recommandé son article dans un livre intitulé « Dilemmas in Animal Welfare » de 2014 comme une sorte de défi. Dans cet article qui s'appelle « Santé publique et bien-être animal », j'ai trouvé des arguments qui cherchaient à traiter équitablement les liens qui unissent santé publique et bien-être animal, en prenant comme exemple concret le cas de la lutte anti-rabique, en particulier dans la ville de Curitiba, qui est au sud du Brésil, la première en Brésil qui a réussi à éradiquer la maladie. J'ai compris à la fin de la lecture qu'il y avait là un récit conduit par une ouverture au chien, traditionnellement considéré comme des vecteurs de zoonoses terribles, mais considéré dans sa texte comme capable d'agir et surtout de négocier et de former des alliances. La santé publique elle-même s'est ouverte à la considération des agences non humaines qui ne manquent jamais de créer des mondes dans, avec et hors de la société humaine. Molento compare deux types de politiques publiques face à la nécessité de contrôler la rage. Premièrement, l'extermination des populations canines, qui prévaut encore dans de nombreuses villes. Calculant le rapport entre le nombre de chiens et d'humains à 1 par 4, ce qui donne aujourd'hui un nombre approximatif de 440 000 chiens dans la ville de Curitiba, elle explique. Environ la moitié de cette population est composée de femmes. En supposant, par exemple, que 25% des chiennes soient sous la garde de quelqu'un et que les deux tiers de celles-ci soient actives sur le plan de la reproduction, il y a environ 110 000 chiennes actives sur le plan reproductif avec un libre accès aux rues. Si chaque année produit 4 chiots par portée et à 2 portées par an, le nombre total produit par an est environ 80 000 chiens. Par conséquent, toute effort sérieux visant à contrôler la taille de la population doit impliquer la mise à mort ou la stérilisation de centaines de milliers de chiens. Molento continue à dire que depuis trois décennies et jusqu'à 2005, une politique d'extermination responsable de la mort de 10 000 à 15 000 chiens par an était en vigueur à Curitiba, c'est-à-dire une petite fraction du potentiel de reproduction de ces animaux, un effort inutile et une utilisation abusive des deniers publics, selon elle, sans parler des souffrances qu'il implique. Lothaire conclut, la taille de la population canine est résistante aux efforts humains de contrôle. Dans ce cas, par une provocation de Leusienne, on pourrait dire que créer, c'est résister. Si l'homme ne cesse pas d'emprisonner la vie, il ne cesse pas tuer la vie, ce sont les paroles de Deleuze, est-il possible que les chiens, en se reproduisant de manière incontrôlée et incontrôlable, auraient la force d'exiger leur rythme à eux? Quoi qu'il en soit, il faut bien l'avouer, ils résistent aux politiques d'extermination et ont réussi dans cette entreprise. Il reste cependant une question. Quel est ce rythme demandé par les chiens et comment s'y retrouver en vue peut-être de l'épanouissement d'un monde cohabité? Je passe à la seconde partie qui s'appelle « Sécuta ». Vinciane Desprez, en discutant la possibilité de faire entrer des animaux en politique, les situe la question de ce qui peut apparaître dans la question « ce qui compte pour eux », qui se déroule dans la proposition de faire exister les animaux là où ils sont intéressants et donc nous donner une chance de nous intéresser autrement. Ces questions recherchent par les contacts des expériences, de la coexistence, etc., bref, par des dispositifs d'intérêt, ce qui compte du point de vue des animaux en question. Selon Desprez, Il s'agit d'une stratégie selon Desprez, il s'agit d'une stratégie qui fait apparaître les animaux en tant que personnes. À la suite d'une discussion sur les animaux et la politique impliquant des noms comme Isabelle Stenger et Dominique Lestel, il a été proposé que politiquement, être une personne, celle dont quelqu'un peut prendre en compte ce qui compte pour elle. Bien entendu, rien de tout cela ne se produit sans une transformation de celui qui pose la question ou qui s'efforce de prendre en compte ce qui intéresse les autres. Autrement dit, en demandant sérieusement ce qui compte pour un animal en particulier, nous lui donnons la possibilité de devenir une personne en même temps que nous nous transformons avec eux. Il est important de noter que ce n'est pas une simple question de production de savoir, mais de responsabilité, entendu ici, comme le suggère Donna Haraway, comme la capacité de répondre, responsibility. Après tout, alors que nous cherchons ce qui compte pour un animal en particulier et ce que nous apprenons à poser des questions intéressantes, nous devons être à l'auteur de sa réponse. Il ne s'agit plus d'une simple réaction, mais d'une réponse. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Ce savoir avec eux implique que ce qui compte pour le chimpanzé, dans l'exemple donné par Desprez, doit compter pour un réseau d'alliés qui pourront à leur tour faire compter. Enfin, pour Desprez, l'animal n'entre pas seul en politique. En extrapolant un peu la déclaration de la philosophe, nous pourrions proposer que si les animaux n'entrent pas seuls en politique, c'est parce que, pour qu'ils entrent, les catégories fixes d'humanité et d'animalité doivent être déplacées par la transformation provoquée par l'intérêt, et à sa place, des séries articulées plus ou moins asymétriques capables de former des raisons doivent émerger. Devenir une personne est un processus de socialisation, elle conclut. Cette réflexion me ramène à l'article de Molento et au travail effectué par les chercheurs et chercheuses de l'abeille. Là-bas, aucune production de savoir n'est innocente, et à chaque étape de leur travail avec les animaux, chacun d'entre eux sait que ces rencontres façonneront nature-culture pour tout. Lorsque Molento affirme, par exemple, que partout où il y a une maladie, tous les affectés sont des victimes, on s'aperçoit déjà que pour elle, la série humaine ou animale, désormais connectée, ne peut pas impliquer des changements sans que les deux ne soient affectés. Dans cette perspective, il est possible de passer au deuxième mode de gestion de la rage, à savoir accorder une plus grande attention aux chiens errants. À Curitiba, la rage a été vaincue plutôt par la vaccination que par la mise à mort méthodique des chiens. Mais un autre projet, les chiens communautaires, dont je vous parlerai tout à l'heure, promet de faire un pas encore plus grand dans cette direction. La principale différence entre cette stratégie et celle d'extermination peut être présentée en termes de refus de la relation avec les animaux, d'une part, et son cultif, d'autre part. Pour le moment, je voudrais soulever deux questions qui, à mon avis, sont essentielles pour un débat approfondi. 1. Qu'est-ce que veulent les chiens errants, une grande partie de leur peuple, dont l'histoire suit la nôtre dans des processus de codomestication, de symbiose et de travail conjoint de worlding? Et 2. Comment récupérer et nourrir la chorégraphie ontologique, c'est un terme de Haraway, la chorégraphie ontologique qui semble avoir été perdue au cours de la marche, qui a construit nos villes et nos modes de vie à un point tel qu'aujourd'hui les chiens errants sont parfois perçus comme des parasites. La troisième partie s'appelle jouer. Les chiens de la communauté sont des animaux qui, habitant un quartier particulier, établissent des liens avec les résidents locaux. Dans plusieurs villes et états du Brésil, une législation spécifique régit et garantit ce type d'association, en introduisant également les pouvoirs publics dans le réseau de relations. À Curitiba, le projet Cão Comunitário implique le réseau de protection des animaux du Secrétariat municipal à l'environnement, l'Université fédérale du Paraná, la Fondation Araucária d'appui au développement scientifique et technologique du Paraná, de toute terre responsable des chiens et, bien sûr, des animaux eux-mêmes. Tout commence lorsqu'un certain chien et un humain, ou un groupe d'humains se rencontrent et forment un lien, c'est-à-dire que cela dépend d'une double volonté. Ce chien, qui n'est pas amené à vivre à la maison de personne, reste dans la rue et est nourri, soigné par ses alliés humains. Les pouvoirs publics ensuite identifient les animaux avec un chip et les stérilisent. Un ou plusieurs humains sont désignés comme responsables des animaux, des chercheurs de l'université et des responsables du secrétariat suivent l'évolution de la situation. À partir de ce moment, tout le monde, chien et humain, sont déjà impliqués dans un réseau complexe dans lequel la compétence et l'action de chacun sont cruciales. C'est en elle et pour elle que l'on découvre ce qui compte pour ces animaux et c'est leur permanence et leur fluidité qui leur permettent de faire compter ce qui compte pour eux. L'un des effets les plus remarquables de cette alliance multispécifique et transinstitutionnelle est l'émergence des chiens en tant qu'agents de la santé publique. Plutôt que des fleurs, comme dans les récits qui distribuent de manière étanche les agences et les subjectivités comme appartenant seulement à l'homme. Et je cite Molento, elle dit, « Plus de chiens errants stérilisés et en bonne santé vivent, plus la protection contre les maladies canines dans la région sera longue, car leur présence réduit les chances que des chiens étrangers y déménagent. Les chiens étrangers peuvent apporter des agents pathogènes et sont plus susceptibles d'être actifs de manière reproductrice. Ainsi, les chiens errants qui sont sous un certain niveau de contrôle peuvent être compris comme une barrière sanitaire et reproductive pour les communautés dans lesquelles ils vivent. En d'autres termes, il semble que la manutention des chiens errants sains et stériles et l'augmentation de leur espérance de vie représentent ce qu'il y a de meilleur pour la santé publique et le bien-être des animaux. Un chien de communauté constitue ainsi un acteur social, une personne dont la présence n'est plus seulement tolérée, mais qui joue un rôle fondamental dans le regroupement de sa communauté, une personne avec laquelle un pacte fondé sur une nouvelle alliance est signé. En un mot, pas plus en cas de charité, ces chiens deviennent des ouvriers, mais pas seulement ça, bien sûr. L'entrelacement des chiens, d'êtres humains et des institutions en façonnant des natures cultures dans lesquelles les agents sont les mieux répartis favorise également l'émergence de façons de cohabiter l'espace public et d'occuper la ville elle-même. Au lieu de faire appel à des abris publics, institutions qui, au mieux de leurs intentions, finissent par servir de dépôt d'animaux mal-aimés tenus à l'abri des regards, la rue est reprise comme un espace légitime et privilégié, un lieu vécu et où on vit ensemble. La vie sème elle-même et grandit en dehors des barreaux et des murs. Lécher. À Santa Maria, dans l'état de Rio Grande do Sul, au sud du Brésil aussi, par exemple, une plaque a été érigée en l'honneur de l'un de ces chiens appelé Amigo, Ami. Et elle est exposée sur la place des pompiers où il est écrit « Amigo, chien de la communauté qui vivait heureux et en liberté dans les rues de la ville qu'il a aimé et respecté depuis 20 ans. Il nous a quittés le 4 août 2014. » Ce chien est un cas particulier. Selon ses gardiens, il a été adopté plusieurs fois, mais il s'est toujours enfui. Il aime la liberté, décrit la vétérinaire Marlene Nascimento. Comme beaucoup d'autres chiens errants, il n'avait ni collier ni maître, pour reprendre la devise anarchiste, ni Dieu ni maître. Cependant, son destin n'a pas été le même que celui de la plupart de ces animaux, cachés dans les coins, à la merci de la bonne volonté de quelques-uns, exposés à toutes sortes de conditions météorologiques défavorables. Les jolis chiens de taille moyenne, la fourrure tricolore et les oreilles attentives, disponibles pour des alliances et des réunions, connaissaient la même disponibilité chez les habitants de cette ville. Ensemble, à travers une association multi-espèces, ils ont signé un pacte singulier. Amigo, comme l'on dit ceux qui le connaissaient, était un flâneur. et la fête des amis dans la rue a occupé et partagé ces espaces avec ses semblables humains. Pendant environ 20 ans, rappelez-vous que l'espérance de vie des chiens errants est de 2 à 3 ans, parmi ses excursions, il a protégé les personnes de la maladie et était à son tour protégé par eux. Il était présent de manifestations, de promenades et de soirées dans la ville. Il a vécu à Santa Maria comme n'importe lequel de ses habitants. Il est mort comme il a toujours vécu, en liberté. L'histoire d'amigo est révolutionnaire. Cette liberté vécue par amigo n'est pas un concept sublime, mais un concept qui, comme le dit Haraway, à propos de relations instrumentales, est situé, articulé et expérimenté à degrés divers. Elle est expérimentée dans la chair de ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas vivre dans l'illusion de la liberté, dans l'illusion que la liberté ne vient que lorsque le travail et les besoins sont abandonnés pour un autre. Il s'agit d'assumer, des deux côtés, des conséquences d'être correspondant et corresponsable l'un devant l'autre. Plus précisément, il passe par les soins de vétérinaires et des habitants de Santa Maria adressés à amigos et, pour sa part, pour ne pas attaquer les personnes, par exemple. C'est une rue à double sens dans laquelle se forme, se fabrique des droits qui n'existaient pas auparavant, un chemin